Alexis Tambemopa, bonjour.
Bonjour, Okapi.
La RDC a participé dernièrement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Quelle a été sa contribution et le bilan que vous pouvez faire?
La première chose, c'est qu'il faut savoir que c'est la RDC qui assume la présidence tournante du comité des candidatures africaines à haute fonction internationale dans le système des Nations Unies. Et à ce titre, j'ai eu à présider la réunion au cours de laquelle nous avons examiné les candidatures africaines dans la plupart des fonctions internationales. Cette réunion a pris 2 jours. On a pu boucler correctement à la satisfaction de tous, sauf pour un dossier qui concernait la candidature africaine au poste de directeur général du BIT, où il y avait plusieurs pays qui se disputaient. Ensuite, la RDC a participé à la réunion du Conseil des ministres qui prépare le sommet. Au cours de ce conseil, nous avons dû examiner toutes les questions qui devait être soumise à la décision des chefs de l'État. Et puis, le dossier le plus important que nous avions était celui de candidature pour le renouvellement de la présidence et la vice-présidence de la commission, ainsi que le commissaire. Il faut savoir que nous avons une candidature RDC pour la fonction de commissaire aux affaires politiques. Donc, pendant tous les jours passés à Addis Abeba, il a fallu faire campagne pour notre commissaire, à savoir notre ambassadeur actuel à Washington, que nous voulons positionner comme commissaire chargé des questions politiques.
Et est-ce que vous avez réussi à faire positionner notre ambassadeur de Washington?
Le dossier était très bien avancé, mais l'ensemble de nomination, donc de l'élection du président de la commission et du vice-président n'a pas eu lieu. Il y a eu un blocage. Parce que pour faire passer au poste des commissaires, il faut d'abord élire le président de la commission. Pour élire le président de la commission, nous avons eu des séances marathon. La situation est restée figée. Nous avions 2 candidatures. Monsieur Jean Pinte, le président en exercice, qui demandait le renouvellement de son mandat, comme le prévoit la charte, et Madame Zuma, la ministre de l'Intérieur d'Afrique du Sud, qui postulait pour le même poste. Alors, le règlement de l'Union africaine prévoit que pour être élu, il faut réunir les 2/3 des voix des pays qui sont en règle vis-à-vis de l'Union africaine et qui ne font pas l'objet de sanctions. Sur les 54 pays de l'Union africain, il y a un qui fait l'objet des sanctions, Madagascar. Donc il y a 53 pays qui devaient voter. Il fallait réunir 36 voix. Le règlement prévoit que pour être élu au premier tour, il faut réunir 36 voix. Si vous n'avez pas les 36 voix, vous n'êtes pas élu. Au premier tour, cela n'a pas été possible. M. Ping a eu 28 voix, Mme Zuma 25. On est passé au deuxième tour, et cette fois-là, M. Ping avait 27 voix et Mme Zuma 20. On est passé au troisième tour et M. Ping avait cette fois-là 29 voix et Mme Zuma 24. Le règlement prévoit que si au troisième tour, vous n'avez pas pu réunir les 2/3, alors à ce moment-là, le candidat qui a eu le moins de voix se retire et celui qui reste en piste doit malgré tout encore être voté. Il faut qu'il réunisse les 2/3. Donc on est passé au quatrième tour. M. Ping n'a eu que 32 voix, il lui manquait 4. Donc automatiquement, il n'y a pas de président. Comme cela a créé une tension extrêmement forte au niveau du sommet, et qu'on a vu une fissure entre 2 types d'Afrique, 2 types de philosophie. Pour calmer le jeu, la voix de la sagesse a été de dire, on passe, au lieu de donner, conformément au règlement, la vacance au vice-président, on allait reporter les élections dans 6 mois, au prochain sommet qui aura lieu à Lilongwe, au Malawi.
Avec cet échec de pouvoir faire élire un nouveau président de la Commission africaine, vous ne craignez pas une certaine implosion de l'Union africaine dans l'avenir?
C'est très très clair. Il est apparu clairement qu'il y a 2 blocs, qu'il y a 2 philosophies différentes qui se combattent, à tel point que les 2 candidats finalement étaient comme dans un jeu d'échecs. Ce n'était pas eux ou leur personnalité ou leur projet qui comptait. Finalement, ils étaient considérés en fait pratiquement comme des prétextes. Des 2 blocs philosophiques différents qui se combattaient avec férocité. Alors, si le chef d'État, dans leur sagesse, ne revient pas à une nouvelle analyse, et la possibilité en fait de refaire l'unité, effectivement, il y a un risque à ce moment-là que l'Union l'union éclate un jour. Mais je suis sorti de là assez frustré, comme la plupart des chefs de délégation.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre mode tel que le consensus?
Non, non, le règlement est très strict. D'abord, il faut les deux tiers, parce que vous ne pouvez pas être le président des commissions pour tous les continents si vous n'avez pas une majorité tout à fait qualifiée. Alors, le règlement prévoit qu'en cas d'échec, comme on l'a eu, normalement, c'est le vice-président, alors, qui assume l'intérim en attendant le prochain sommet. Mais ici, la tension était tellement forte parce qu'il y avait une division, il y a ceux qui ne voulaient pas de cette idée-là, puis d'autres qui estimaient qu'il n'y avait pas de raison que M. Ping ne soit pas réélu, donc on risquait une crise majeure si on avait appliqué strictement le règlement.
Qu'est-ce que le gouvernement congolais tire comme dividende de ces sommets?
La leçon, c'est que le Congo doit se positionner par lui-même et devenir une force politique à laquelle puissent recourir les uns et les autres. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée, que je ferai dans le rapport à soumettre et au président et au gouvernement. Nous devons devenir nous-mêmes une véritable force politique qui soit l'arbitre dans les enjeux de ce genre et pour les années à venir.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci.